Ici la musique.
Bonjour et bienvenue, on est très heureux de vous retrouver pour Par ici la musique avec un portrait superbe consacré aujourd'hui à Michel Zbinden, percussionniste fasciné par les instruments que sont le marimba ou le vibraphone. Ça tombe très très bien puisque dans une semaine sort le deuxième CD d'Oval Trio, ça s'intitule « Souffle de l'âme » et on commence justement avec une composition de Michel Zbinden, « Faux tango ». On est ici au studio SAE. SAE, c'était pour le Sextet Art Ensemble, hein, il y a bien des années, où il y avait Toulli, Alain Tissot, Serge Cotelat et beaucoup d'autres. Mais aujourd'hui, là, on est dans le bureau de Michel Zbinden. C'est ton bureau de travail un peu, là.
Ah, c'est ma salle de travail, ouais. C'est là que j'ai mes instruments. C'est là que je passe le plus clair de mon temps. C'est là que je m'entraîne, que je compose, que je donne mes cours, donc c'est vraiment mon petit chez-moi.
C'est là que tu as mis le téléphone au bord du bureau parce que c'est aujourd'hui que doivent arriver les CD d'Oval Trio, le nouveau Oval Trio qui doit sortir dans un peu plus d'une semaine.
Exactement, ça tombe bien en fait, mais le livreur va venir ce matin et j'attends son téléphone pour aller réceptionner les CD. Ça fait plusieurs paquets, donc il faut être prêt à y aller dans les minutes.
Oval Trio, c'est le deuxième CD, c'est l'un des projets de Michel Zbinden qui est en plein dans l'actualité. Oval Trio, c'est Michel Zbinden, mais c'est aussi Baptiste Grand et Mathieu Schneider à la flûte. C'est un projet important parce qu'il met en avant un instrument qui était particulièrement précieux.
Alors oui, c'est un de mes grands projets, un de mes grands trios que j'ai depuis plusieurs années. Pour mon plus grand bonheur. À la base, il est né d'un duo avec Baptiste où on voulait jouer des claviers à percussion, c'est-à-dire essentiellement le vibraphone et le marimba, qui sont les deux instruments que je pratique le plus. Et puis, durant notre travail dans ce duo, en fait, on jouait des pièces de percussion contemporaines, comme on fait dans tous les conservatoires. Et puis, nous est venue l'envie d'aller chercher de la musique ailleurs. Et on était les deux attirés par Astor Piazzolla. Mmh. Et comme Astor Piazzolla avait écrit une pièce qui s'appelait « L'histoire du tango » pour guitare sèche et flûte traversière, on a essayé de jouer ces pièces les deux. Puis très vite, on s'est dit « mais ça serait tellement mieux avec un flûtiste ». Et c'est là qu'on a demandé à Mathieu, qui a tout de suite répondu « présent ». Et notre trio est né comme ça. À la base, ça ne devait pas être un trio, ça devait être juste... On devait avoir juste cet invité pour une série de concerts. Et puis, ben, on s'est tellement bien entendu qu'on est restés ensemble. Dans notre premier CD, on était encore énormément dans cette envie-là de faire du tango, mais avec notre configuration d'orchestre. Donc, on a enregistré du Piazzolla dans notre premier CD. Et puis, petit à petit, ben, on s'est émancipé. Et puis là, on se dirige de plus en plus vers nos propres compositions. Mais on résiste quand même pas jamais à la tentation de demander à un ou l'autre compositeur, mais cette fois contemporain, de nous écrire des pièces, ce qui est le cas dans notre nouveau disque.
Par ici la musique.
gars qu'on a invité il y a quelques mois dans cette émission, c'est Grégoire Monin. Je me souviens qu'il était venu justement pour évoquer ces deux ou trois morceaux qu'il vous avait donnés. Pour lui, c'était une joie d'être interprété par Roval Trio. Pour vous, c'est une belle découverte de recevoir aussi une partition qui vient de l'extérieur comme ça.
Alors oui, et puis dans ce cas-là, c'était vraiment un plaisir parce que Baptiste a demandé à Grégoire si ça l'intéressait, et puis deux jours après, on avait un morceau. Donc il a vraiment répondu à l'appel d'une manière très très forte. On a pu enregistrer deux morceaux de lui sur notre CD. Il est venu nous écouter pour qu'on lui présente les arrangements qu'on avait fait de ses pièces, parce que c'est une des marques de fabrique, je dirais, d'Oval Trio, c'est que on respecte pas tellement les partitions, c'est-à-dire qu'on a une trame qui est sur une feuille, et puis après on essaie d'en faire notre propre recette de cuisine. Et Grégoire a vraiment accepté cette règle de jeu-là. Il est venu nous écouter pour qu'on lui présente ce qu'on avait fait de ses œuvres, et puis après il est aussi venu les écouter quand on les enregistrait. Donc c'était vraiment vraiment super.
C'est par ici la musique aujourd'hui avec Michel Zbinden. On a parlé d'Oval Trio. J'aimerais qu'on parle de cet instrument de prédilection qu'est le vibraphone ou le marimba. On est percussionniste avant d'être vibraphoniste et joueur de marimba.
Oui, alors c'est clair que dans les conservatoires, la formation, c'est les percussions. Moi, j'ai fait une formation de percussionniste classique. J'ai appris à jouer des timbales, de la caisse claire. Et puis, dans les instruments de percussion, il y a les claviers qui, depuis quelques années, ont pris un essor énorme. Donc maintenant, dans la formation de percussionniste, c'est une grande part de la formation, c'est d'apprendre à jouer des claviers. Mais des claviers de musique contemporaine, on va dire ça comme ça. Pas du tout, par exemple, ce qu'on fait dans Oval Trio, qui est beaucoup plus de la musique improvisée. Il y a aussi, depuis quelques années maintenant, c'est développé la formation en clavier, mais dans les musiques actuelles. Et on peut faire des formations maintenant dans ce domaine-là. À mon époque, c'était plus compliqué, disons. Mais maintenant, c'est possible.
Alors justement, dans ce bureau, dans cette salle de travail, il y a un marimba. Tu peux nous dire un petit peu comment est réalisé cet instrument? C'est un instrument qui est aussi imposant qu'un piano, sauf un piano à queue qui peut être un peu plus grand, mais tout de même à déménager, c'est du boulot.
Ah, c'est une aventure, c'est clair que d'aller jouer du marimba, c'est pas d'aller jouer de la flûte dans un concert, c'est évident. C'est un gros, gros déplacement parce que c'est un instrument qui a près de 3 mètres de long, 1 mètre de haut, 1 mètre 20, 1 mètre 30 de large. À la base, en fait, il s'appelle marimba parce que c'est un instrument qui était joué plutôt en Amérique latine. Et le nom vient de là, en fait. Et puis cet instrument, dans différents continents, il a différents noms. On l'appelle plutôt balafon en Afrique. En Asie, on a plutôt des instruments qui se rapprochent du vibraphone, c'est-à-dire qui sont en métal dans les orchestres gamelans. Et ce qu'on voit, c'est que partout dans les différents continents, on a des instruments de cet ordre-là, c'est-à-dire des lames sur lesquelles on tape avec des baguettes ou des bâtons. Et puis, cet instrument s'est développé, je dirais, au début du 20e, et il a commencé d'être employé dans la musique on va dire européenne au sens large, hein. C'est là que le marimba est né, avec le nom marimba, que c'est devenu un instrument chromatique comme tous les instruments que l'on pratique un peu partout en Europe. Même constat pour le vibraphone. Et puis il s'est développé. Au début, il y a eu très peu de pièces qui ont été écrites, hein, pour le marimba, vraiment très très peu. Pour le vibraphone aussi. Et puis dès les années, je dirais 1920, mais je suis pas très précis, hein, là, il a commencé d'avoir dans la musique classique quelques pièces où il était employé, mais de manière très sporadique, le vibraphone et le marimba. Et puis, ce qui a permis l'essor du vibraphone du côté du jazz, bah, c'est essentiellement l'arrivée de Lionel Hampton, qui a fait le premier enregistrement d'un solo au vibraphone dans les années 30. 1930. Et puis, parallèlement, le marimba a commencé d'être employé un peu plus dans la musique classique. Il y a eu un premier concerto qui, en fait, à la base, était une pièce pour piano et orchestre de Darius Milhaud, qui a été adaptée, qui est devenue un concerto pour vibraphone et marimba. Je dirais que pour moi, c'est première pièce de musique classique conséquente où il y a du marimba et du vibraphone. Puis à partir de là, ça a pris un essor énorme dans la musique contemporaine et dans la musique improvisée. Maintenant, on a dans les deux domaines cet instrument qui est employé de manière conséquente. Ce qu'il faut dire pour les intéressés un petit peu plus pointus, c'est qu'au départ, ces instruments se jouaient à deux baguettes. Et maintenant, on joue essentiellement à quatre baguettes. Et ça, c'est grâce, entre autres, à un grand jazzman qui s'appelle Gary Burton, qui est le premier qui a développé une technique à quatre baguettes. Après, ça s'est développé, il y a eu plein d'autres personnes qui ont employé, aussi dans le domaine de la musique classique. D'ailleurs, maintenant, il y a plusieurs techniques de tenue de ces baguettes. Mais je dirais que pour moi, le premier, c'est Gary Burton.
Ici la musique.
Tu évoquais tout à l'heure le vibraphone et le monde classique, et il y a quelques années, tu joues un concerto pour vibraphone. Je crois que finalement les concertos pour vibraphone sont tout de même rares dans le répertoire classique, mais l'un des derniers est celui composé par Alain Tissot, et ça a été quand même un souvenir, parce que vous l'avez joué à Delémont, vous l'avez joué à Standete, vous êtes allé le jouer en Italie et encore ailleurs. C'est quand même quelque chose de très important.
Alors pour moi, c'était un rêve que j'avais au conservatoire, parce que dans ma dernière année d'études du conservatoire, je devais préparer mon répertoire. Et puis je voyais mes collègues pianistes, violonistes, violoncellistes qui avaient l'embarras du choix dans le nombre de concertos à jouer. Je rêvais de jouer un concerto de clavier. Et en clair, il y en avait trois ou quatre qui n'étaient simplement pas à ma portée, parce que beaucoup trop difficiles. C'était des concertos qu'on pouvait éventuellement jouer si on voulait faire une licence de concert, ce qui n'était pas encore mon cas quand j'étais au niveau du diplôme. Et j'étais un peu triste parce que j'ai dû jouer un petit peu ce que font tous les percussionnistes, c'est-à-dire une pièce de marimba, une pièce de vibraphone, une pièce de multipercussion, on a toutes sortes d'instruments de percussion, de la caisse claire, des timbales, et je rêvais de pouvoir monter un concerto de vibraphone ou un concerto de marimba. Et je me suis dit, si un jour j'ai la possibilité d'avoir un compositeur qui m'écrit de la musique pour ça, ça serait un grand plaisir.
Puis il se trouve que tu en avais un sous la main.
Alors, non seulement j'en avais un sous la main, mais surtout, et ça c'est une chance incroyable, j'ai eu un orchestre qui est venu me demander d'aller jouer en soliste. C'est l'orchestre de chambre jurassien avec son directeur Hervé Grella. Et si lui n'avait pas demandé, on n'aurait pas pu créer ce concerto. Donc j'en suis très redevable, autant de l'orchestre que d'Hervé, qui m'a dit simplement une fois au bistrot, t'aurais pas envie de venir jouer un concerto de percussion avec l'orchestre. Et puis, j'y réfléchis, je pense bien 20 secondes, avant de lui dire oui, mais je veux jouer un concerto de vibraphone ou de marimba, je veux pas jouer un concerto de multipercussion où je dois faire des timbales, donner des coups de gong, faire de la caisse claire. Ça ne m'intéresse pas. Et puis il m'a dit ok. Puis je lui ai dit, ben voilà, dans les concertos jouables, j'en vois trois. Et je lui ai dit, ben voilà, sur les trois, c'est chaque fois un gros orchestre. Donc avec un orchestre à cordes comme l'orchestre de chambre jurassien, c'est pas possible. Il faut envisager des cuivres, il faut envisager des bois, il faut envisager des percussionnistes en plus. On m'a dit, ouh, c'est pas possible. Mmh. C'est là que je lui ai dit, mais alors j'aurais peut-être une idée. Et j'ai demandé à Alain Tissot qui a tout de suite répondu présent. Et ça, c'est génial parce que c'est non seulement c'est le professeur qui m'a initié à la percussion, mais en plus, c'est devenu un ami. Ah, voilà. Il me connaît très bien. Il sait très bien comment je joue, ce que j'aime comme musique, mes qualités, mais aussi mes défauts musicaux. Donc, il m'a vraiment écrit un concerto sur mesure.
Alors, le hasard fait que il est là, Alain Tissot, il est à quelques mètres de nous. Et qu'est-ce qu'il est en train de préparer là? Parce qu'il y a finalement une surprise qui est en train de se mettre en place.
Alors, il est en train de préparer un concerto de marimba. C'est moi qui lui ai proposé. Je lui ai dit, ben voilà, tu m'as écrit un concerto de vibra. Parce qu'il y a peu d'œuvres qui existent pour cet instrument, mais c'est la même chose pour le marimba. Est-ce que tu veux pas refaire ça? Et mon idée était toute simple, c'était de se dire, ben voilà, on fait un deuxième concerto, un concerto de marimba, toujours avec l'orchestre de chambre jurassien, qui ont aussi répondu présent. On a un orchestre qui est prêt à jouer le jeu, ben, qu'est-ce qu'on veut de plus? Allons-y.
Allons-y, tu le dis, puisqu'il est en train de travailler sur la partition. On va le taquiner un peu de minutes, là.
Alors, ben voilà, on ne résiste pas à la tentation de l'appliquer dans l'aventure et puis qu'il nous demandait de nous dire quelques mots.
Oui, en effet, donc c'est une deuxième page qui s'inscrit à cette magnifique histoire avec l'Orchestre de Chambre Jurassien et avec Michel. Pour moi, c'est un grand plaisir de pouvoir écrire on ne va pas dire une suite, mais quelque part, c'est une sorte de résonance du premier concerto. Comme toujours, quand on finit une aventure comme celle-là, il y a déjà des idées qui germent pour une suite. Et là, on m'a gentiment lancé la balle, donc je l'ai pris sous le bras et je la garde. Et pour l'instant, ben voilà, j'y travaille.
À quoi est-ce qu'on fait attention justement quand on a le même musicien, le même orchestre, qu'on a, j'imagine, encore en tête les notes, les harmonies du premier concerto? On essaie de s'en détacher entièrement, on essaie de faire des petits rappels, de quand même essayer de créer une suite?
Non, il n'y a pas cette conscience-là en fait. Simplement, j'écris dans l'instant. Et l'instant n'est plus le même qu'il y a 4 ans. Quelque part, j'ai changé, Michel a changé, l'orchestre a également évolué. Donc c'est simplement notre vie qui avance, et moi j'essaie toujours de faire de ma musique un portrait de ma vie du moment. Donc je ne sais pas en fait quel lien il y aura entre celui-ci et le précédent, très mm-hmm. exactement, je ne le sais pas. Ce qui est certain, c'est qu'il y a notre personnalité qui va être un vecteur commun. Maintenant le reste, on verra bien.
On a quitté le concerto pour vibraphone et orchestre d'Alain Tissot avec Michel Zbinden et avec l'orchestre de chambre jurassien sous la direction d'Hervé Grella pour parler toujours de cet instrument de prédilection qu'est le vibraphone et le marimba. Et puis la musique, la composition et le théâtre, parce que tu as aussi beaucoup travaillé pour le théâtre.
Alors oui, j'ai écrit pas mal de musique pour le théâtre, bon, grâce à différents metteurs en scène, mais surtout une personne à qui je tiens énormément et puis qui m'a donné beaucoup d'opportunités, c'est Germain Meyer. J'ai écrit plusieurs fois des musiques pour lui et ça c'est vraiment... je le suis très redevable, c'est aussi un ami, hein, parce que c'est vraiment des chances que j'ai eues de pouvoir me lancer dans la composition.
Le théâtre permet une autre dimension à la musique parce qu'il y a le jeu scénique, parce qu'il n'y a pas que la musique, il y a tout ce qui se passe sur scène et qui fait évoluer la musique.
Alors oui, c'est pas du tout la même approche que d'écrire simplement un morceau parce qu'on a envie de mettre telles harmonies ou telles mélodies ensemble. Et il faut vraiment, ben on a un contexte, on doit soit dépeindre une action, soit donner une atmosphère par rapport au déroulement d'une scène, soit dépeindre un personnage. Donc c'est vraiment une toute autre approche, mais j'aime bien ça parce que je suis quelqu'un d'assez concret, donc ça m'aide dans la composition d'avoir des images très concrètes dans la tête pour écrire de la musique. Donc je pense que c'est aussi pour ça que j'écris plusieurs fois de la musique pour des pièces de théâtre.
Un des derniers projets qui vient de naître et dont on verra encore quelques spectacles ce printemps, c'est « Mais où est donc Quichotte ?»
Oui, alors ça c'est un projet de la compagnie Qui t'est dit donc, qui existe, la compagnie existe depuis une année, mais en fait l'équipe qui la constitue existe depuis plus de 10 ans, puisque c'est un travail que je fais avec Olivier Nussbaum et Julien Monti, qui sont des musiciens bien connus de la région, mais aussi pour moi des amis de longue date. Et on avait monté il y a 10 ans un premier projet qui s'appelait Corpus, un voyage onirique dans le corps humain, et puis on avait adoré travailler ensemble, donc on a fait plusieurs projets, on a écrit plusieurs musiques et participé à plusieurs projets de pièces de théâtre avec Germain Meyer, entre autres, et puis là, l'envie était venue de se dire, ben voilà, on se lance les trois dans une nouvelle aventure, et à l'initiative de Julien, on s'est dit, mais pourquoi pas essayer de faire un concert théâtral ou un théâtre concertant, je ne sais pas comment l'appeler, où on mélange vraiment les deux disciplines beaucoup plus. Et l'idée est née comme ça. Moi, j'ai lancé l'idée de faire un Don Quichotte parce que c'est un personnage qui me fascine. Et on a trouvé une metteuse en scène absolument géniale qui nous a fait l'adaptation, Sophie Pasquet, qui a fait un travail énorme d'adaptation de l'œuvre de Cervantes. Et puis qui nous a mis en scène, ce qui n'est pas une mince affaire quand on doit mettre en scène des musiciens. C'est pas comme quand on doit mettre en scène des gens de théâtre. C'est quand même beaucoup plus difficile. Mmh. Et on s'est entouré d'un acteur, Luca Lomazzi, qui joue Don Quichotte, et d'un éclairagiste acteur, David Baumgartner, qui porte les deux casquettes, puis avec brio les deux casquettes, pour créer ce Don Quichotte qui est à moitié un concert et à moitié une pièce de théâtre. On a vraiment essayé de mélanger les deux et j'en suis assez content.
Monsieur Quissotte, née Quissotte, nous vous apprenons avec regret que vous allez être expulsé de votre logement pour cause de destruction de l'immeuble situé au 16 rue de la Manche. D'après l'arrêté 8564, et daté du 11 janvier 2011. L'expulsion forcée a été fixée à ce jour.
Michel Zbinden, tu fais de la musique depuis toujours, depuis 10, 15, 20 ans?
J'ai commencé à 15 ans de faire de la musique, donc ça fait quelques années, plus de 30 ans maintenant. Et pendant plus de 15 ans, j'ai fait ça en amateur.
Qu'est-ce qu'elle a changé pour toi, la musique ?
Pour moi, c'est une discipline avec laquelle je peux pas m'en passer. Je peux pas vivre sans. Ça m'a apporté énormément dans tous les domaines. Bon, j'ai toujours adoré écouter de la musique. Ça, c'est le point de départ. Mais elle m'apporte un bonheur tous les jours parce que je peux pousser plus loin mes limites. Elle m'apporte quelque chose que j'adore faire, c'est étudier. J'ai toujours adoré étudier, quels que soient les domaines. Puis en musique, ben, on est toujours étudiant. Chaque nouveau concert, il faut apprendre des nouvelles choses, donc ça c'est un plus. c'est une discipline très complète parce que elle demande des facultés intellectuelles mais aussi physiques. La pratique de l'instrument, surtout dans la percussion, c'est des mouvements. Il faut apprendre à bouger. Et ça, je n'ai jamais été considéré comme quelqu'un de très habile, manuellement parlant. Mmh. Et la musique m'a apporté énormément par ce biais-là. J'ai fait un petit peu, je dirais, mon travail de psychomotricité personnelle à travers la musique. Mmh. Parce qu'au départ, j'étais vraiment pas, dessiné pour faire ce genre de discipline, surtout pas la percussion qui demande une bonne coordination, mmh. ce que j'avais pas du tout. Mmh. Au départ, j'étais même plutôt pas très bien coordonné, on va dire ça comme ça. Et j'ai dû beaucoup travailler pour ça, mais ça m'a apporté énormément, parce que je me sens beaucoup mieux déjà dans mon corps, simplement parce que je fais de la musique tout le temps.
Quand tu parles, là, tu as évoqué bien sentir dans son corps, psychomotricité, tu as évoqué avant aussi l'activité physique. C'est le médecin qui revient à la surface, là.
Alors, peut-être. Je ne sais pas. Je ne crois pas forcément. Je pense que c'est quelque chose qui est inhérent à une hygiène de vie, je dirais, plus que parler de... Parce que quand j'entends médecin, on voit tout de suite le côté pathologie, mais c'est pas du tout ça à quoi je pense. Mais c'est vrai que pour moi, ça fait partie de ma conception de la vie, d'avoir une bonne hygiène de vie, autant d'un point de vue intellectuel que physique, quoi. Et la musique m'apporte ça, en plus de tout le domaine artistique pur.
Parce qu'avant d'être musicien professionnel, que tu es maintenant depuis une quinzaine d'années, tu as été médecin, c'est-à-dire les études de médecine, travailler comme assistant médecin à Lausanne et puis ensuite à Moutiers. Mais ça aussi, c'est une part importante de la vie lorsque l'on a fait des études de médecine et que l'on a exercé le métier.
Alors, c'est clair que c'est une grosse part de ma vie et puis elle est toujours là, elle sera toujours dans mon vécu, même si j'ai arrêté de pratiquer là maintenant depuis de nombreuses années. Bon, comme je disais avant, j'ai toujours adoré étudier. Je crois que si demain on me dit tu peux plus faire de médecine, tu peux plus faire de musique, mais il te faut étudier l'informatique ou l'histoire ou la psychologie ou je sais pas quoi, je dirais ok, c'est parti. Parce que j'adore étudier. Je trouve que c'est un des moteurs que j'ai dans ma vie, c'est d'essayer d'avancer, d'apprendre des nouvelles choses, faire des nouvelles expériences. Donc, les études, ces études de médecine, ça en a été une. La pratique de ce métier, j'ai adoré le faire. J'ai pas arrêté parce que ça ne me plaisait pas, mais j'ai arrêté parce que je voulais faire aussi des études de musique. Et puis, à un moment donné, c'était pas possible de concilier les deux. Donc, il a fallu que je me dise, je fais un break en médecine. Et puis après, avec les années, j'ai pas repris.
Ce sont les hasards de la vie qui font que tu as quitté la médecine pour te consacrer finalement uniquement à la musique.
Le fait que j'ai arrêté la médecine, non, parce que quand j'ai commencé mes études de médecine, j'avais déjà en tête l'idée de terminer aussi des études de musique. Mais voilà, mon raisonnement était tout simple, c'est qu'est-ce que tu fais en premier ? Est-ce que tu fais tes études de médecine ou est-ce que tu fais tes études de musique ? Si je commence par mes études de musique, je les terminerai vers 25-26 ans. Commencer la médecine à ce moment-là, c'est peut-être un peu tard. Donc j'ai préféré commencer à faire les choses dans l'autre sens. D'autant plus qu'au conservatoire, je dirais pas qu'on m'a incité, mais on m'a quand même fait comprendre que j'étais peut-être pas totalement tracé pour la musique. Et puis je me suis dit, ok, je fais d'abord la médecine, puis après je fais les études de musique. C'est ce que j'ai fait, j'ai tout poursuivi à la suite. Et puis à un moment donné, pour terminer mon conservatoire, il fallait que je m'y consacre à plein temps. Donc je ne pouvais pas travailler à l'hôpital en même temps. Donc j'ai fait un break à ce moment-là. Et puis après, c'est les hasards de la vie, parce que on m'a proposé des projets en musique, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et puis je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Ah, j'essaye encore une année. Puis après, ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et puis je n'ai pas repris la médecine à cause de ça. J'ai toujours eu comme approche des choses de me laisser porter parce que la vie m'amène. J'ai des envies, des ambitions, et puis Et puis il y a la vie de tous les jours, il y a ce que la vie nous offre, il y a les contraintes de la vie, et puis il faut jongler avec ces deux choses. Et si on a des ambitions qui sont en dehors de la réalité de la vie que l'on mène, pour moi, on a quand même une forte chance d'aller vers une vie qui n'est pas très heureuse. Mmh. Tandis que si on se laisse porter par le courant, puis qu'on essaye d'interagir avec ce que la vie nous offre, on a beaucoup plus de chances de traverser, de faire notre bout de chemin de la meilleure manière possible. Donc c'est ce qui m'a guidé jusqu'à maintenant, et j'en suis très heureux parce que j'ai vraiment vécu de très belles années.
Paris, c'est la musique.
Michel Zbinden, on a parlé de l'importance de la musique, de l'instrument. Il y a encore un élément qui paraît important aussi, c'est l'enseignement, la possibilité, la joie de transmettre son savoir.
Oui, alors pour moi c'est essentiel. Je ne conçois pas ma vie d'artiste musicien sans avoir une part d'enseignement. Et je ne conçois pas non plus mon rôle d'enseignant sans avoir une activité artistique. Et j'ai aussi beaucoup de chance parce que j'enseigne à l'école de musique du Jura bernois, donc de l'école de Philippe Crutli, qui est quelqu'un que j'apprécie et que j'aime beaucoup. J'enseigne aussi à l'école, à l'EJCM, donc à l'école jurassienne de musique. À l'école de culture générale, j'ai quelques heures, pas beaucoup, mais j'ai la chance de faire des ateliers d'orchestre. Et puis, j'ai aussi la chance, depuis quelques années, de m'occuper de la structure sport-art-études du canton du Jura pour la musique. Et ça, c'est aussi quelque chose de très intéressant, parce que j'ai affaire déjà à des élèves qui jouent d'autres instruments que le mien, que la percussion, et ça, c'est un plus pour moi. Et puis, je peux monter des projets, vraiment des vrais projets artistiques. D'ailleurs, on en a un qui est prévu, qui s'appelle Zic en vrac à la rue Broca, au mois de juin de cette année, avec André Auriet et son chœur Sakazik, avec l'orchestre de chambre jurassien une nouvelle fois, et avec Pascal Gudel qui fera la mise en scène. Et on a eu la chance d'être engagé par le centre culturel de Delémont. Donc on sera dans la programmation du centre culturel avec un projet d'élèves, une soixantaine d'élèves. Ça, c'est un tout beau projet, des élèves qui viennent de la structure SAE, mais aussi de l'ECG. Donc je me réjouis.
C'était Par ici la musique avec Michel Zbinden, et notamment des extraits de cet album d'Oval Trio qui sort la semaine prochaine, Souffle de l'âme. Le vernissage a lieu samedi prochain, 18 janvier, à la cave Saint-Germain à Moutier. Ensuite, on aura le bonheur de les entendre au Forum Saint-Georges à Delémont le jeudi 6 février et au Château de Plujouze le samedi 22 février. En ce qui concerne le spectacle « Mais où est donc Quichotte ?», c'est à découvrir au Forum Saint-Georges à Delémont le dimanche 9 mars. Michel Zbinden et toutes les informations concernant Oval Trio, vous retrouvez tout ça sur le blog de Par ici la musique.